Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, qu'il est loin le temps du G7 flamboyant d'Emmanuel Macron, détendu fin août à Biarritz pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Les sondages étaient bons, mais la réforme mystère est passée par là. Les retraites qui plombent le président, selon notre sondage Odoxa, 65% des Français pensent qu'il ne fait pas l'affaire et c'est la droite qui en profite. Les étudiants mobilisés contre la précarité aujourd'hui, 15 jours après l'immolation d'un de leurs camarades à Lyon. Hier, c'est une jeune lycéenne qui a tenté de mettre fin à ses jours de la même façon dans son lycée de Seine-Saint-Denis, sans message politique cette fois. Elle porte la cause des femmes et les mesures annoncées hier contre les violences conjugales. La secrétaire d'État chargée de ce très lourd dossier au micro d'Inter dans 20 minutes.
Oui, Marlène Schiappa avec laquelle vous pourrez dialoguer via les réseaux sociaux, l'application mobile de France Inter. Le standard est ouvert, mais nous ne pourrons pas vous donner la parole en direct. Je lirai vos questions à Marlène Schiappa. Voilà, vous avez le mode d'emploi. Rendez-vous tout à l'heure.
Et dans ce journal, sauver Venise des eaux en limitant le trafic des paquebots de croisière dans la lagune. Et puis le dernier Scorsese, 3h30 sur Netflix, avec une distribution à coupe et le souffle.
France Inter.
Quand le temps de la concertation se transforme en bourbier, à quand les annonces sur les retraites alors que se profile un mois de décembre noir dans les transports? Édouard Philippe, qui reçoit les syndicats et le patronat aujourd'hui encore, va réunir tout son gouvernement dimanche pour donner sa feuille de route avant des annonces concrètes sur le projet avant la fin de l'année. Il était temps, sans doute, car le climat ambiant fait perdre des points à l'exécutif. Seuls 34% des Français accordent leur confiance à Emmanuel Macron, 35% au Premier ministre, selon notre baromètre Odoxa, en chute depuis la rentrée. Laurence Perron.
Rien n'y fait, ni les concertations en cours, ni les mesures en faveur du pouvoir d'achat ou les chèques pour l'hôpital. C'est principalement auprès des classes populaires et de la gauche que l'exécutif décroche. L'inquiétude sur une réforme des retraites qui manque de lisibilité dope la défiance, analyse Gaël Sliman, le patron de l'Institut Odoxa.
De cette ambiguïté est née une inquiétude dans l'opinion et cette inquiétude, elle se traduit évidemment par une forte impopularité de l'exécutif.
Plus inquiétant qu'une impopularité qui en réalité stagne depuis plus d'un an, c'est le surgissement pour une droite qu'Emmanuel Macron avait en partie conquise d'une nouvelle offre politique. François Baroin et Xavier Bertrand se taillent désormais derrière Marine Le Pen une troisième place ex aequo de meilleur opposant.
Cet espace politique, personne n'arrivait à l'incarner jusqu'à présent. Des personnalités comme Baroin ou Bertrand semblent arriver à mieux saisir les mécontentements dans l'opinion. Et ça, c'est plus inquiétant pour l'avenir que d'avoir comme seuls adversaires Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, évidemment.
Des Français inquiets pour leur avenir, une gauche social-démocrate qui doute, une droite classique qui se reprend à espérer en ses hommes. 2 ans et demi après son accession au pouvoir, la Macronie semble tanguer sur un socle qui se rétrécit.
Et avant de réunir tous ses ministres, dimanche à Matignon, Édouard Philippe s'exprimera ce soir devant les parlementaires de la majorité très attendue sur le dossier des retraites. Se nourrir grâce au Resto du Cœur, ils étaient 900 000 l'an dernier. Combien cet hiver pour cette nouvelle campagne qui commence aujourd'hui, la 35e? 80% de ceux qui sont accueillis par les restos vivent avec moins de 513 € par mois, soit la moitié du seuil de pauvreté. Marc en fait partie, à la fois bénéficiaire et bénévole depuis un an en Haute-Savoie.
Je suis un jeune retraité qui vit avec le RSA, donc c'est vrai que d'où le fait que j'ai dû faire la démarche de faire ma demande de bénéficiaire. Ce qui n'est pas facile au départ, parce que c'est un travail sur soi-même, c'est il faut mettre sa fierté de côté, il faut oser dire j'ai besoin d'aide, voilà. Il faut passer le cap de le côté honteux de la démarche et puis après dire que oui, ben vous êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes qui vivent dans la difficulté, on n'est pas tous sur les ronds-points. Hein. Et moi de mon côté, en étant bénéficiaire, je trouvais naturel de donner mon temps, puisque je suis à la retraite également. Donc, je donne 2 jours et demi par semaine au Resto du Cœur.
Marc, bénévole et bénéficiaire des Restos du Cœur, au micro de Richard Vivion de France Bleu, Pays de Savoie. L'an dernier, plus de la moitié de ceux que les restos ont aidés avaient moins de 26 ans, dont 40% de mineurs avec leurs parents. Et combien d'étudiants ont-ils recours aux restos, eux qui se mobilisent aujourd'hui contre la précarité de leur statut, 15 jours après l'immolation d'un jeune étudiant lyonnais? Son geste reproduit hier par une lycéenne jeune de Seine-Saint-Denis. Elle s'est embrasée dans son établissement de Villemomble avant de se jeter du premier étage dans l'atrium. Elle est grièvement brûlée, son pronostic vital est engagé. Selon nos informations, elle était suivie depuis plusieurs années pour des problèmes psychologiques. Maïwenn Bordron s'est rendue sur place hier soir auprès de lycéens sous le choc.
Il était aux alentours de 15h hier après-midi quand la jeune fille en classe de première s'est aspergée d'un produit inflammable dans le hall du lycée. Elle s'est ensuite jetée du premier étage. Une trentaine de personnes, des enseignants, des surveillants et des lycéens ont assisté à la scène. Les élèves ont été confinés dans l'établissement pendant l'évacuation de la victime, selon la FCPU, une association de parents d'élèves. Parmi ses camarades de classe, une jeune fille qui se fait appeler Rose. Elle ne veut pas donner son nom. Elle n'a rien vu de la scène, mais elle se dit choquée. Elles étaient ensemble en cours de spécialité maths et physique.
C'est choquant, c'est très choquant. Surtout quand on connaît la personne, en fait. On a un petit coup au ventre, au cœur, enfin partout, en fait.
Thomas lui décrit la lycéenne comme une élève sérieuse. Il affirme qu'ils étaient dans la même classe l'année dernière.
Qu'une personne en arrive là, c'est horrible, quoi. On est tous choqués. Moi, je la connaissais, donc ouais, l'année dernière, j'étais dans sa classe. Je ne penserais pas qu'elle fasse un truc pareil, quoi.
À la sortie du lycée hier soir, beaucoup d'hypothèses sur les raisons qui ont poussé cette lycéenne à passer à l'acte. L'Académie de Créteil appelle à la plus grande prudence et met en garde contre des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux.
Et toujours en Seine-Saint-Denis, deux lycéens du même établissement d'Aubervilliers sont morts poignardés depuis la rentrée après Kevi, 15 ans au mois d'octobre. C'est un jeune de 19 ans qui a succombé à ses blessures 15 jours après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Aucun lien pour l'instant entre les deux affaires. Des enfants hospitalisés avec des adultes ou placés à l'isolement, une surpopulation dans les services, l'impossibilité de circuler librement, quotidien dégradant à l'hôpital psychiatrique de Rouen, alerte le contrôleur général des lieux de privation de liberté. 8 de ses salariés s'y étaient mis en grève de la faim l'an dernier pour réclamer des embauches. Le Français enlevé au Mexique avant-hier a été libéré, comme son compagnon d'infortune mexicain. Les deux hommes avaient été kidnappés par un commando armé dans un parc national du centre du pays. Une rançon avait été demandée aux autorités mexicaine. On ne connaît pas encore les circonstances de leur libération. Des scènes de panique à Tirana, en Albanie, frappée par un séisme de magnitude 6,4 dans la nuit. Un immeuble s'est effondré dans la ville côtière de Durrës. Les dégâts sont considérables, selon le ministère de la Défense. Un premier bilan fait état de 4 morts et 150 blessés. À l'autre bout de l'Adriatique, c'est le sort de Venise qui inquiète. Un comité spécial a été convoqué par le gouvernement italien aujourd'hui après les inondations, dont le coût s'élève à 1 milliard d'euros. Il sera question de ces digues censées protéger la ville, mais aussi, Bruce de Gelsin, d'un encadrement plus strict des paquebots de croisière qui sillonnent la lagune.
Le comité No Grandi Navi, non aux grands navires, défend une position radicale, interdire les paquebots dans toute la lagune de Venise, car ils polluent, dégradent le fragile écosystème et sont aussi en partie responsables de la montée des eaux, car pour les accueillir, il a fallu creuser la lagune, explique le porte-parole du mouvement Tommaso Cacciari, interrogé par la Nuova di Venezia.
Il faut maintenant rétrécir les entrées du port, qu'elles soient moins profondes, ne plus creuser de chenaux portuaires et ouvrir le plus possible la lagune pour que la marée puisse s'étendre au maximum et ainsi ne pas monter trop haut.
Le gouvernement a déjà interdit aux paquebots de passer devant la place Saint-Marc depuis 2012 et le naufrage du Costa Concordia. Sauf qu'il fallait une voie alternative que 7 ans plus tard, les autorités cherchent encore. Mais un début de solution sera acté aujourd'hui à Rome, selon le député de Venise, Nicolas Pellicane.
Le ministre a annoncé que dès l'année prochaine, au début de la saison, en avril, 20 à 30% des paquebots pourront être déviés vers le port de Marghera. C'est déjà une bonne nouvelle car ça veut dire qu'il y aura 200 navires de moins.
200 sur 530 chaque saison qui transportent jusqu'à 1 800 000 croisiéristes, mais rapportent peu comparé aux près de 30 millions de touristes qui auront visité Venise cette année. À Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
Avec ou sans Neymar, c'est toute la question au PSG avant le choc de la soirée à Madrid, après un aller vibrionnant des Parisiens qui l'avaient emporté 3-0 contre l'équipe de Zidane. Réponse à 21h pour savoir si c'est avec ou sans Neymar. Donc le PSG de toute façon est déjà qualifié pour les 8e de finale. L'enjeu maintenant c'est la première place du groupe. Enfin un Scorsese sans grand écran, dit Irishman, sort aujourd'hui sur Netflix. 3h29 avec, excusez du peu, De Niro, Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel et Eva Bettan pour nous en parler.
C'est la dernière tournée des Vieilles Canailles. Allez, encore une histoire de mafia. Le plan séquence d'ouverture virtuose nous conduit à un vieillard en chaise roulante, Robert De Niro. Le film respire la joie des retrouvailles, alors que le sujet principal du film n'a rien d'hilarant. Le temps qui est passé, le dos qui s'est courbé, la vieillesse, quoi. L'histoire est celle d'un mafieux de seconde zone, De Niro, qui finit par devenir très proche du syndicaliste lié à la mafia Jimmy Hoffa, lequel a disparu un jour et son corps n'a jamais été retrouvé. Le récit se déroulant sur une longue durée, Scorsese a rajeuni ses acteurs avec un procédé novateur, coûteux et très laid, des faux jeunes aux traits étranges, mais malgré tout, leur présence éclate. On aurait pu s'attendre, pour justifier un si long film à une fresque, le registre est plus étroit et plus intime, suivre le destin d'un homme jusqu'au bout, un homme qui pourrait être un des personnages de ces films de mafia précédents. Tout compte fait, pas sûr que cela vaille la peine de faire ce métier qui vous amène à tuer même ceux que vous aimez, si c'est pour finir un jour, vieux comme tout le monde, mais seul comme personne.
Netflix qui diffusera peut-être The Irishman dans un vieux cinéma new-yorkais, le dernier ciné de quartier à une seule salle qui avait fermé au mois d'août. Netflix vient de reprendre le bail du Paris Theater, inauguré par Marlène Dietrich en 1948.
Merci Florence Paracuelos.